France Inter.
Ce soir, eh bien, nous allons célébrer un grand absent qui revient dans l'actualité, mais au fond, malgré la brièveté de son œuvre et le temps qui s'est écoulé depuis sa disparition, il a toujours été actuel et sa présence ne nous a jamais quittés. « Le temps m'a dit de ne pas en demander plus, alors un jour, notre océan trouvera son rivage. Des paroles aussi limpides qu'énigmatiques pour conclure cette chanson intitulée « Time has told me ». Elle a été enregistrée il y a bien longtemps, il y a plus d'un demi-siècle, en 1969, et celui qui l'a composée et interprétée, s'accompagnant à la guitare, avait pour nom Nick Drake, un musicien anglais qui a une vie bien trop brève, puisqu'il est mort à l'âge de 26 ans, en 1974, après avoir enregistré 3 albums qui, de son vivant, n'ont pas rencontré le moindre succès. Il appartient à cette famille d'artistes malheureux ou malchanceux, dont la notoriété n'aura été que posthume. Nick Drake était en effet mort depuis longtemps, quand, à la faveur d'une publicité pour une marque de voiture allemande en 1999, une de ses chansons a suscité un engouement mondial complètement inattendu. Et son océan, pour reprendre les paroles de sa chanson, a trouvé son rivage. Pour autant, le nom de Nick Drake était depuis bien longtemps connu des amateurs et des musiciens d'envergure, je pense à Kate Bush ou encore à Robert Smith, auquel les paroles d'une chanson de Nick Drake, celle-là même qu'on vient d'entendre, avaient inspiré le nom de son groupe, The Cure. Oui, ces deux-là, parmi d'autres, n'ont jamais perdu une occasion de célébrer son talent si singulier. Au début des années 2010, l'Américain Joe Boyd, celui-là même qui avait été le réalisateur artistique des albums de Nick Drake, avait organisé déjà une série de concerts pour célébrer la beauté éternelle de ses chansons. Y avaient participé des artistes proches de lui, comme le duo néo-zélandais Luluk, je vous en ai parlé, ou la chanteuse irlandaise Lisa Hannigan, mais aussi une survivante de la période, la chanteuse Vashti Bunyan, qui avait interprété une version renversante de Witch Wheel. Bon, c'est une parenthèse vraiment pour les connaisseurs. 10 ans plus tard, en tout cas aujourd'hui, fin 2023, sonne l'heure d'une nouvelle célébration pour Nick Drake, puisque 22 interprètes, c'est beaucoup, reprennent à peu près la moitié de son répertoire. L'album s'appelle The Endless Colored Ways et réunit d'excellents interprètes comme la française Camille. Il y a aussi les Dublinois de Fontaines D.C. ou encore la chanteuse canadienne Faced. Alors il y a de bonnes choses, comme la reprise par Ben Harper de Time Has Told Me, et je suis sûr que ce serait un bonheur d'entendre tous ces interprètes et musiciens se succéder au cours d'un spectacle. En tout cas, à moi, ça m'a donné envie de me replonger dans la brève œuvre de Nick Drake et de vous la faire découvrir ou redécouvrir ce soir. Et je suis sûr que ce sera une révélation pour beaucoup d'entre vous. Enfin, c'est vraiment ce que j'espère. Alors pour moi, c'est une vieille et étrange histoire, puisque je ne le cache pas. J'ai eu pour la première fois la curiosité d'acheter un album de Nick Drake à l'âge de 16 ans, donc ça fait un bail, juste après avoir appris sa mort en novembre 1974. J'étais à Londres pour les vacances de Noël et j'ai trouvé l'album Pink Moon, paru en 72 dans un magasin de disques. Je suis ensuite allé à rebours, achetant les deux précédents, Brighter Later et Five Leaves Left. Des disques qui ne m'ont jamais quitté, je pourrais même dire qu'ils n'ont jamais cessé de me hanter. Je dis pas ça pour vous raconter ma vie, mais parce que c'est pas indifférent quand on est jeune d'être obsédé par un musicien qui n'est plus là et qui surtout est mort à un âge si proche du vôtre. Il existait alors chez certains jeunes, dans mon genre, un culte des morts. Brian Jones, des Stones, Jimi Hendrix, Jim Morrison, c'était des figures assez écrasantes. Et on se demandait, mais pourquoi fallait-il que des gens aussi géniaux meurent aussi jeunes? C'était comme une énigme qu'on retournait sans cesse dans sa tête, qui ne vous lâchait jamais. Et dans mon esprit, Nick Drake rejoignait ces personnages, mais autrement. Je percevais chez lui une personnalité, comment dire, plus effacée, moins flamboyante que celle de ces rockstars, quelqu'un que je sentais plus proche de ma réserve d'adolescent et qui semblait avoir laissé, avant de partir pour l'autre monde, un message sibyllin qui ne manquait pas de fasciner. Thank you.
for the dreams that came to you when so young. Told of a life where spring has sprung. Of emotion go out to fight, but while the earth sinks to its grave, you sail to the sky on the crest of a wave. So forget this cruel world where I belong. I'll just sit and wait and sing. If one day you should see me in the crowd, lend a hand and lift me to your place in the cloud.
Vertigo Trip. Sur France Inter.
Take a little while to make your sister fair. now that the family is part of a chain, take off your high shade, start over again.
Quand on entend cette chanson écrite et interprétée par Nick Drake en 1971, Hazy Jane 2, extrait de son deuxième album Brighter Later, qui a été d'ailleurs accueilli dans la même indifférence que le premier, on se demande pourquoi on lui a accolé l'étiquette entre guillemets de folk. Est-ce parce qu'il jouait sur une guitare sèche Guild M20 en acajou, un modèle auquel il a d'ailleurs laissé son nom? Nick Drake pourtant n'a jamais repris de chansons traditionnelles des îles britanniques ou d'ailleurs. Son style et ses mélodies ne s'inscrivaient pas dans la recherche ou la célébration d'un légendaire passé, parce que quand on parle de folk, un mot qui est tout de même l'abréviation de folklorique, il y a tout un décor passéiste qui surgit, or, chez Nick Drake, jamais. Dans la chanson qu'on vient d'entendre, Hazy Jane 2, on sent plutôt le swing du jazz, l'éclat de la soul dans les cuivres, vous avez entendu, comme la tristesse du blues et de la country des origines. Un mélange dont le dosage particulier n'appartenait que à Nick Drake et dont beaucoup, beaucoup par la suite se sont inspirés. Les paroles de Hazy Jane 2 évoquent l'anxiété d'un très jeune homme, il venait d'avoir 22 ans, voilà, qui venait de sortir de la bulle de son adolescence, ce petit monde bien réglé à l'abri duquel il était encore libre d'imaginer un monde merveilleux ou effrayant. Mais c'est fini, il va devoir le quitter et s'élancer vers l'inconnu, vers la vraie vie. Maintenant que tes pieds quittent le sol, lève l'ancre et cesse de regarder autour de toi, dit la chanson, c'est presque du Rimbaud. Nick Drake est alors un jeune musicien très ambitieux, très appliqué, qui pense que son heure est venue. Toutes les planètes semblent en effet alignées. Le jeune chercheur de talent américain Joe Boyd, envoyé à Londres par la compagnie Elektra, croit en lui. Il a d'ailleurs beaucoup de flair. Il a été le premier à repérer le talent de Syd Barrett et du groupe Pink Floyd à Londres. Il n'a pas eu de mal à trouver à Nick Drake un contrat discographique avec la jeune compagnie Island, celle qui fera découvrir plus tard au monde entier Cat Stevens et bientôt Bob Marley. Joe Boyd estime à juste titre que Nick Drake est le plus grand auteur, compositeur, interprète et guitariste de sa jeune génération. Son jeu de guitare, j'y reviendrai, est incomparable, aussi original que précis et maîtrisé. Et ses chansons, tant les paroles que les musiques, ont une personnalité à part qui se remarque tout de suite. Et Joe Boyd a un plan, une longue préparation, des séances d'enregistrement espacées afin de tirer le meilleur de Nick Drake. Boyd recourt à des arrangements variés, un piano jazz et, pour certaines chansons, des orchestrations classiques. Il a de toute évidence en tête des albums récents comme Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band des Beatles ou aussi Pet Sounds des Beach Boys ou encore Forever Changes du groupe de Los Angeles Love, des albums qui ont enrichi la palette musicale de ces groupes au-delà de tout ce qu'on avait entendu jusqu'à là. Et Joe Boyd a aussi un autre modèle en tête. Le premier album du poète canadien Leonard Cohen, qui a rencontré un immense succès. En effet, Cohen chante lui aussi de très belles paroles d'une voix lugubre sur des arpèges de guitare, présentant un savant équilibre entre une certaine austérité et une assez riche palette de couleurs orchestrales, chœurs féminins et cordes classiques. La chanson de Nick Drake que vous allez entendre, Riverman, est la clé de voûte de son premier album qui s'appelle Five Leaves Left, les cinq feuilles restantes étant bien sûr celles du papier à rouler. C'est bien connu, Nick Drake était un grand fumeur. On l'a souvent souligné, cette chanson Riverman est marquée par un rythme impair, cinq battements dans une mesure à quatre temps, comme le célèbre instrumental de jazz Take Five de Dave Brubeck ou encore Four Sticks de Led Zeppelin. Il y a plein d'exemples. Le rythme de Riverman, vous allez entendre swing, c'est presque une bossa brésilienne, et l'orchestration classique qui l'accompagne, une douzaine de musiciens, est comme une symphonie majestueuse accompagnant la voix de Nick Drake, mais de loin, tranquillement, à la façon d'un fleuve imposant. Il est difficile de savoir exactement de quoi parle Riverman. Je cite, « Betty est passée en chemin, elle a dit qu'elle avait un mot à dire à propos des affaires du jour et des feuilles qui sont tombées. » Et encore, « Betty a dit qu'elle a prié aujourd'hui pour que le ciel explose, ou bien qu'il reste comme ça, elle ne sait pas trop. » Alors qui est cet homme du fleuve, Riverman, qui a des choses à raconter sur la façon dont celui-ci coule, mais hélas, il n'a rien à dire au narrateur de la chanson qui reste à la fin dans la même ignorance qu'au début, mystère. Riverman, c'est peut-être simplement une métaphore du cours de la vie qui se termine d'une façon aussi énigmatique que celle-ci a commencé.
Betty came by on her way, said she had a word to say about things today and fallen leaves. Said she hadn't heard the news, hadn't had the time to choose way to lose, but she believes. Gonna see the river man, gonna tell him all I can about the plan. If he tells me all he knows about the way his river flows and all night shows in summertime, that she prayed today for the sky to blow away or maybe stay. She wasn't sure, for when she thought of summer rain calling for lost the pain. wanna see the river man. Gonna tell him all I can about the band. Feeling free. If he tells me all he knows about the way his river flows, I don't suppose
s'achève, vers la terre plonge le soleil et avec elle chaque chose qu'on a perdue et gagnée quand le jour s'achève. Day is Done figure dans le premier album de Nick Drake dont je vous ai parlé, Five Leaves Left. Quand on entend cette chanson aujourd'hui, sa beauté vous saute aux oreilles, hein, si j'ose dire. Il y a la netteté du jeu de guitare en arpège de Nick Drake, le relief qui donne à chacune des notes de ses accords, qui joue jamais dans l'ordre qu'on attendrait, c'était un de ses secrets, puis cette voix triste et distante, un peu voilée, qui paraît vous confier un secret à contre-cœur, et puis l'élégance comme nostalgique de cette orchestration classique baroque. Une combinaison unique, difficile d'imaginer que c'est passé quasiment inaperçu en 1969. Joe Boyd imaginait que Island en vendrait 100 000, autant que le premier album de Leonard Cohen. Et Nick Drake avait, c'était pour lui une évidence, un talent poétique et musical bien au-dessus des jeunes musiciens anglais de sa génération qui, comme lui, mêlaient leurs arpèges de guitare à des rythmes jazz. Si vous voulez des noms, je peux vous citer John Martin ou Pentangle, il y en avait quelques autres. Eh bien, Island a vendu moins de 5000 exemplaires de cet album et Joe Boyd et bien sûr Nick Drake en ont été meurtris. Ils savaient qu'ils avaient mis tout leur cœur, toute leur énergie à réaliser le meilleur album possible. Ils avaient pris le temps. Nick Drake, qui pratiquait la guitare avec acharnement, arrivait en studio extrêmement concentré. Un de ses amis de l'université de Cambridge, Robert Kirby, avait réglé pour une bouchée de pain ces très belles orchestrations baroques, très différentes des orchestrations symphoniques plus emphatiques auxquelles recouraient les groupes pop de la période. Un pianiste de jazz new-yorkais avait superposé son jeu à certaines chansons. Il y avait aussi des choristes féminines et puis un remarquable ingénieur du son, John Wood, s'était cassé la tête pour placer les bons micros au bon endroit afin de capter cet équilibre parfait. Bref, l'album avait été méticuleusement préparé, les séances étaient étalées sur plus de 6 mois. Alors on peut évidemment trouver toutes sortes de raisons à cet échec. En 69, de jeunes groupes comme, je sais pas, Crosby, Stills and Nash, Pink Floyd et bien d'autres occupaient les premiers plans. Et puis dans un registre pas si éloigné de celui de Nick Drake, un Cat Stevens allait s'imposer avec force. La critique et le public avaient bien sûr d'autres chats à fouetter, on peut dire tout ça comme on pourrait dire d'autres choses. Mais enfin, la raison principale de cet échec, c'est que Nick Drake était terriblement mal à l'aise sur scène. Il n'existe aucun document filmé de ses apparitions scéniques, mais tous les témoignages concordent. Sur scène, il regardait ses pieds et il n'ouvrait absolument pas la bouche entre les chansons. D'ailleurs, il y avait une raison à ça, très terre à terre, et je vous le dirai tout à l'heure. Ah bah oui, il faut continuer à écouter l'émission. Joe Boyd et Nick Drake ne sont pas découragés pour autant, et comme le budget pour enregistrer l'album Five Leaves Left était resté très modeste, Chris Blackwell, le patron des Disc Island, qui soutenait Nick Drake avec ardeur, lui avait une fois prêté même sa villa dans le sud de l'Espagne, a donné son feu vert à l'enregistrement d'un second album, Brighter Later, qui n'a pas mieux marché, et pourtant.
Please give me second grace. Please give me a second face. I've fallen far down the first time around. Now I just sit on the ground in your way. Now, if it's time for recompense for what's done, come, come sit down on the fence in the sun. And the clouds will roll by, and we'll never deny, it's really too hard for the fly. Please tell me your second name. Please play me your second game. I've fallen so far for the people you are. I just need your star for a day. So come, come ride in my streetcar by the bay. For now, I must know how fine you are in your way. And the sea, she will sigh, but she won't need to cry. For it's really too hard for the fly.
Vertigo Trip sur France Inter.
Could have been a sailor, could have been a cook. A real life lover, could have been a book. I could have been a signpost, could have been a clock. As simple as a kettle, steady as a rock. I could be here and now. I would be, I should be, but how? I could have been one of these things first. I could have been one of these things first. I could have been your pillar, could have been your dog. Could have stayed beside you, could have stayed for more. I could have been your statue, could have been your friend. A whole long lifetime could have been the end. I could be oh so true. I would be, I should be, through and through. I could have been one of these things first. I could have been one of these things first.
Pas mal de choses à dire sur cette chanson de Nick Drake, One of These Things First, qui figure dans son deuxième album Brighter Later, qui est paru à la fin de l'hiver 71, longtemps après le premier, un an et demi en ce temps-là, où les artistes publient en moyenne deux albums par an, c'était long et le public avait le temps de vous oublier. Déjà, One of These Things First, c'est une chanson d'une surprenante légèreté pour Nick Drake, c'est une chanson à l'humour absurde, très anglais, touchant à la réincarnation, et aussi au fait que la moindre chose qui nous entoure a peut-être une âme. Je cite « J'aurais pu être un marin, j'aurais pu être un cuistot, un vrai amant, j'aurais pu être un bouquin, j'aurais pu être une enseigne, j'aurais pu être une pendule, aussi évident qu'une bouilloire, solide comme un roc, oui, j'aurais pu être toutes ces choses-là avant. Il y avait une sorte d'humour réservé chez Nick Drake, comme en témoigne d'ailleurs le titre de cet album, j'ai appris ça en préparant l'émission, j'y avais jamais réfléchi. Il avait écrit « Brighter Later », c'est une formule qu'on utilisait dans les bulletins météo, en gros hein, des éclaircies plus tard, B-R-Y-T-E-R, plus loin L-A-Y-T-E-R. C'était pour se moquer de la prononciation anglaise aristocratique qui aurait pu être celle de la reine, ça donnait quelque chose comme « Brighter Later ». Voilà. Et dans cette chanson, au rythme de valse jazzy, on sent l'influence de cette fusion swingante folk et jazz qui naissait des deux côtés de l'Atlantique. Côté européen, il y avait l'album « Astral Weeks » de l'Irlandais Van Morrison qui venait de sortir. Côté américain, il y avait l'album « Tapestry » de la New-Yorkaise Carole King, installée, elle, à Los Angeles. Juste avant, une des plus belles chansons de Nick Drake, de ses plus mystérieuses aussi, qui s'appelle « Fly », marquée par un clavecin étouffé et une orchestration réglée par John Cale, qui était alors de retour à Londres après avoir été éjecté par Lou Reed du groupe qu'il avait fondé à New York. J'ai nommé, bien sûr, le Velvet Underground. « Fly », c'est un peu comme « The Man Who Sold the World » de Bowie. Il y a deux voix qui se répondent à l'intérieur d'une seule et même personne. Le premier s'écrit « S'il te plaît, offre-moi une deuxième grâce ». Offre-moi une deuxième face. Je suis tombé trop bas la première fois. Maintenant, me voilà assis par terre en travers de ton chemin. Et le second, comme plus âgé, plus sage, répond à présent, si le moment est venu de te récompenser pour des actes, viens, assieds-toi sur la barrière au soleil. Les nuages vont glisser et jamais on ne va prétendre que pour la mouche, c'est vraiment facile. Une espèce de comptine bizarre, presque dérangeante, assez incompréhensible. Fly est une des chansons, sinon la chanson de Nick Drake qui a suscité le plus de commentaires. Certains ont voulu y entendre une allusion à un traumatisme grave de l'enfance. En tout cas, comme Five Leaves Left, l'album Brighter Later n'a rencontré aucun succès. Joe Boyd est reparti aux États-Unis pour travailler dans le cinéma. Nick Drake est encore parvenu à enregistrer un ultime album, son troisième, simplement assisté de son ingénieur du son, sans moyens, sans accompagnateur, juste lui et sa guitare, en seulement deux journées. Pink Moon, sorti en 72, a suscité encore moins d'écho que les précédents. Sa pochette absurde, un dessin surréaliste qui représentait une grosse lune rose devant laquelle flottait entre autres une tasse de thé et un morceau de gruyère, n'a évidemment pas aidé. L'étonnant, l'incroyable même, c'est qu'en 1999, 25 ans après la mort de Nick Drake, quelqu'un dans une agence de publicité a eu l'idée d'utiliser Pink Moon, la chanson titre de l'album, pour la réclame d'un camping-car de marque allemande, voilà, que je ne nommerai pas, et la voix de Nick Drake a fasciné plein de gens qui n'avaient jamais entendu parler de lui. Cette chanson, Pink Moon, est la plus populaire de son répertoire. Sur le site de streaming que je fréquente, elle a été écoutée plus de 168 millions de fois. Ça donne le vertige.
I saw it written and I saw it say. Bingo moon, gonna get you home. It's a bingo moon.
seems so clear. You can take a road that takes you to the stars. Now I can take a road that'll see me through. I can take a road that'll see me through.
Chanson aussi laconique que fulgurante qui figure dans l'ultime album paru du vivant de Nick Drake, Pink Moon. C'était au début de l'année 1972. Alors il me reste beaucoup de choses à dire, hélas très peu de temps pour les dire. Le talent de Nick Drake n'était bien sûr pas né de rien. Sa mère, Molly, avait composé des chansons au piano toute sa vie en amateur. Sa sœur aînée, Gabrielle, qui est devenue une très célèbre comédienne de théâtre au Royaume-Uni, pratiquait aussi la musique et dans son foyer, on écoutait de la musique classique. C'est là que Nick Drake avait appris le piano et la clarinette, a développé son goût pour des compositeurs anglais à cheval sur les 19e et 20e siècles. Je pense à Ralph Vaughan Williams et Frederick Delius. Un mot sur son enfance, le père avait travaillé en Birmanie, mais la famille avait dû rentrer très peu de temps après la naissance de Nick, le second et dernier enfant du couple, en Angleterre et habiter une maison dans un petit village situé dans le centre d'Angleterre du nom de Tanworth in Arden. On a parfois tendance, à associer des chanteurs poètes comme Nick Drake, des êtres souffrants, reclus, vivant dans les livres. C'était tout le contraire de lui. C'était un grand type, athlétique. Au lycée, c'était lui qui courait le plus vite, sautait le plus haut. On le voyait dans le campus de l'université Fitzwilliam de Cambridge, où il n'a pas fait grand-chose, il n'a pas beaucoup étudié, se balader couvert d'un grand manteau noir, aux manches couvertes de cendres de cigarettes. Il se prenait, bien sûr, pour un beatnik. Il se promenait avec des recueils de poètes romantiques et symbolistes français, de Baudelaire à Mallarmé. C'était le gars réservé, pince sans rire, que toutes les filles regardaient. Il avait beaucoup d'ambition, il était sûr que de grandes choses l'attendaient et il était déterminé à tout faire pour qu'elles arrivent. Nick Drake pratiquait la guitare avec acharnement et en particulier dans sa piaule d'Aix-en-Provence, et oui, où il avait passé plusieurs mois pour apprendre le français dans le cadre de ses études qu'il a totalement négligé. Il est parti avec un pote pour le sud du Maroc, Marrakech, où il a rencontré les Stones, et oui, c'est historique, il leur a même proposé de jouer de la guitare pour eux, il faut dire qu'il était particulièrement bon, et les Stones n'ont pas dit non. C'était l'époque où tout était possible. Nick Drake, outre fumer des pétards, évidemment, enfin je dis évidemment, c'était fréquent, pris des acides là-bas, il n'était pas le seul. Et sa pratique de la guitare était, je le souligne, extrêmement particulière. Chacune de ses chansons, ou presque, naissait d'un accordage de guitare différent. C'est ce qu'il pratiquait du matin au soir, assis sur son lit à Aix-en-Provence, paraît-il. Sans doute ont avancé certains pour retrouver ces mélodies de Gershwin, entre autres, que jouait sa mère au piano. Il fallait bien changer les harmonies. Et ça explique en grande partie ses difficultés sur scène. Entre chaque chanson, Nick Drake changeait évidemment, d'accordage. Et bien sûr, les guitaristes le savent, ça prend du temps. Il y en a qui savent meubler, qui font des blagues, pas lui. Il disait absolument pas un mot entre les chansons et des minutes passaient. Alors forcément, le public, ça l'emmerdait, il se dissipait, il bavardait, il lui tournait le dos et Nick Drake ne supportait pas ça. Un jour, en 70, il en a eu tellement marre, il est parti au milieu d'un concert et on ne l'a plus jamais revu sur une scène. Alors tout le reste de l'histoire de Nick Drake est infiniment triste. La déprime, voire la dépression s'est emparée de lui. Il est allé à la demande de sa famille, très inquiète, à une consultation dans un hôpital psychiatrique et on lui a prescrit un antidépresseur de l'époque. Il était totalement désespéré, il avait fait de son mieux pour que sa musique soit aussi bonne que possible. Il pensait vraiment qu'il deviendrait une star et quoi, il se retrouvait sans un rang. Il téléphonait à Joe Boyd pour lui crier son désespoir et lui disait « Quoi, il y a un critique qui a écrit que j'étais un génie, alors explique-moi pourquoi je suis là à vivre comme un clochard et pourquoi j'ai pas un radis ?» Et l'autre, qu'est-ce qu'il voulait qu'il répondre, il pouvait rien répondre. Nick Drake s'est ainsi découragé, il s'est éteint à petit feu, il se négligeait, il paraît que son apparence était devenue crasseuse et il a cessé même de pratiquer la guitare. Il est mort chez ses parents, fin 74, d'une surdose d'antidépresseurs. Selon ceux qui le connaissaient bien, c'était vraiment un accident et pas du tout un suicide. Il a tenté dans les derniers mois de sa vie d'enregistrer une dernière fois. Hélas, son jeu de guitare n'était plus aussi affûté et il a fallu faire deux prises de son distinctes, une pour la guitare, l'autre pour la voix, parce qu'il n'arrivait plus à faire les deux en même temps comme il savait si bien le faire. Voilà, j'ai pas le temps de vous passer la dernière chanson qu'il a enregistrée, j'avais prévu ça, mais voilà une belle façon de se quitter.
Don't you have a word to show what may be done? Have you never heard a way to find the sun? Tell me all that you may know. Show me what you have to show. Won't you come and say if you know the way to move? Have you seen the land living by the breeze? Can you understand the light among the trees? Tell me all that you may know. Show me what you have to show. Tell us all today if you know the way to bloom. Look through time and find your eye. Tell us what you find. We will wait at your gate, hoping like the blind.
Se quitter, c'était Nick Drake. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie de creuser. Tout de suite après les informations, vous retrouverez Laurent Goubard et ses invités. Il y aura un live de Charlotte Cardin, il y aura également Rhône et Romain Allender.